Bonjour Thomas Cluzel.
Bonjour Lucas.
On commence ce matin avec une nouvelle histoire aussi stupéfiante que révélatrice de la position de faiblesse dans laquelle se trouve Donald Trump.
Oui, c'est un rituel aux États-Unis. Depuis que la matinale de la radio publique américaine a diffusé pour la première fois la déclaration d'indépendance sur ses ondes, c'était il y a 29 ans, chaque année, le jour de la fête nationale, un invité vient lire à l'antenne ce texte fondateur du pays. Et cette année encore, pour célébrer l'Independence Day, NPR a donc réitéré l'exercice. Sauf que pour se mettre au goût du jour, raconte le magazine Slate, la radio avait choisi cette année de tweeter la déclaration d'indépendance dans son intégralité. Et c'est ainsi que les 8000 caractères du texte ont été répartis en une centaine de tweets, postés les uns à la suite des autres. Parmi ceux-ci, on pouvait lire par exemple « Un prince dont le caractère est marqué par des actions qui relèvent davantage du tyran est impropre à gouverner un peuple libre. » Ou bien encore « Lorsqu'une longue série d'abus vient confirmer la volonté de soumettre une nation à un despotisme absolu, il est du devoir de cette nation de renverser une telle tyrannie. » Or, lorsqu'ils ont vu ces étranges messages tomber en rafale les uns après les autres, de nombreux fervents défenseurs de Donald Trump ont cru aussitôt à un appel à la révolution populaire contre le 45e président des États-Unis. Quand certains ont demandé à NPR d'arrêter ses postes, d'autres ont cru que le compte du réseau public s'était fait hacker. Alors évidemment, la première conclusion à tirer de cette histoire est que les partisans de Trump ne connaissent manifestement pas la déclaration d'indépendance de leur pays. Mais l'on pourrait tout aussi bien s'interroger, faut-il en déduire que parmi eux, ils s'en trouvent pour juger que la présidence de Donald Trump est de nature à susciter directement dans les médias ce genre d'appel à renverser le gouvernement.
Et en Russie, cette fois-ci, la propagande étatique, elle, semble porter ses fruits.
Oui, selon une enquête récente de l'Institut de sondage indépendant russe Levada, 38% des personnes interrogées considèrent Joseph Staline comme la personnalité la plus importante du monde, suivi de près par le président Vladimir Poutine. Alors comment expliquer cette réhabilitation en Russie du dictateur soviétique? Comment peut-on aimer quelqu'un qui a sur sa conscience de nombreux crimes et la mort de millions de compatriotes? Le phénomène est effectivement difficile à comprendre. Pour le site de la radio-télévision publique lettonne LSM, les médias jouent malheureusement un rôle important dans ce lavage de cerveau, dit-il, à commencer par la télévision nationale, la principale arme de propagande de Moscou. Et puis sans doute, y a-t-il aussi une certaine ambiance générale propice à cela? Le quotidien de Vilnius, nouvelle lituanienne, note que l'idéalisation du dictateur est basée en réalité sur des motifs politiques. L'image de Staline est directement liée au récit de propagande moderne russe sur la victoire. Or, la réhabilitation semi-officielle de Staline coïncide justement avec le moment où Poutine est arrivé au pouvoir, lequel Vladimir Poutine, de l'Ukraine à la Syrie, ne cesse depuis de faire étalage de sa puissance militaire.
Alors, reste à savoir lequel.
Alors, Vladimir Poutine et Donald Trump doivent en réalité se rencontrer pour la première fois demain en marge du sommet du G20 à Hambourg. Une rencontre qui va probablement satisfaire un peu plus encore le désir du chef du Kremlin d'être considéré comme un dirigeant mondial. Et c'est aussi la raison pour laquelle la presse américaine, qui sait combien le locataire de la Maison-Blanche aime lui se fier avant tout à son instinct, l'exhorte déjà à faire preuve de détermination. Cette entrevue n'est pas une rencontre amicale, mais bien une réunion de travail. Or, les questions urgentes ne manquent pas, peut-on lire dans un éditorial du Washington Post. Sur la question de l'Ukraine, par exemple, la Russie a annexé la Crimée en violation du droit international. Trump doit donc faire comprendre à Poutine que les États-Unis ne lèveront pas leurs sanctions tant que les conditions des accords de paix ne seront pas réunies. Quant à la question syrienne, même si Washington et Moscou poursuivent deux objectifs militaires radicalement différents, Trump devrait au moins essayer de persuader Poutine de reconnaître la nécessité d'écarter Bachar el-Assad du pouvoir. Alors toutes ces recommandations du quotidien américain font notamment sourire le chroniqueur du journal Vzgliad, proche du Kremlin, cité ce matin par le Courrier International, et qui qualifie The Washington Post de « Pravda américaine », un journal qui dicte au président ce qu'il doit dire ou ne pas dire à son homologue russe. Preuve, dit-il, que Donald Trump n'est toujours pas détenteur du pouvoir dans son pays. Mais au fond, peu importe, car Trump suivra-t-il ses instructions? Bien sûr que non, avance l'éditorialiste, pour qui l'enjeu de cette rencontre se résume au fond au contact personnel entre un patriote américain d'un côté et un patriote russe de l'autre. Deux patriotes qui, paradoxalement, peuvent être non pas des ennemis, mais des alliés, enfin des alliés potentiels, dans la mesure où ils ont un ennemi commun.
Un ennemi commun qui se montre beaucoup à la télévision de Pyongyang ces jours-ci.
Oui, absolument. Son nom, a priori, Kim Jong-un, hier, après que les États-Unis ont vivement réagi au dernier tir de Pyongyang, les présidents Russes et Chinois ont finalement appelé la Corée du Nord à mettre fin donc à ses essais de missiles balistiques. Mais tout en invitant les États-Unis et la Corée du Sud à stopper leurs manœuvres militaires conjointes. Une déclaration qui du coup ne semble guère avoir convaincu aux États-Unis. The South China Morning Post cite notamment dans ses colonnes un ex-diplomate chargé de l'Asie de l'Est à Washington. Il est décourageant, dit-il, de voir que la Chine et la Russie appellent toujours toutes les parties à la retenue, alors que leur État client, la Corée du Nord, à qui il continue de fournir du pétrole, en dépit des sanctions internationales, a mis lui de côté justement toute retenue. Dans ces conditions, Washington a annoncé son intention de proposer à l'ONU de nouvelles sanctions contre le régime de Pyongyang, ce à quoi Moscou a d'ores et déjà prévenu hier qu'elle opposerait son droit de veto.
Merci Thomas Cluzel, à demain.
À demain.